enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Vous avez trouvé Luc, chapitre 4, verset 16. Luc, chapitre 4, verset 16. Passage bien connu, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voilà donc ce récit où on trouve Jésus qui revient à Nazareth. Jésus connaissait Nazareth. C'est là où il avait grandi. Du moins, il avait passé sa petite enfance à Nazareth. Jésus revient à Nazareth. Et là, selon sa coutume, il entre dans la synagogue. C'est le jour du sabbat. C'est le jour de la réunion. Alors il arrive dans cette synagogue où on est là pour louer, adorer Dieu, faire la lecture de la Bible, la Torah, l'Ancien Testament à l'époque. Et voilà que, ayant déroulé le rouleau, eh bien il trouve le passage du prophète Ésaïe et voilà ce qu'il va lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et on l'a lu ensemble. Et Jésus proclame « Dieu est avec moi, son Esprit est sur moi, il m'a oint » pour une mission particulière. Et cette mission, ce n'est pas compliqué. Cette mission, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous aimez recevoir des bonnes nouvelles? Ou vous préférez des mauvaises nouvelles? Je suis heureux de voir qu'au Québec, il y a la bonne nouvelle TVA. Oui, parce que quand on regarde les informations, il y a quasiment toujours des mauvaises nouvelles. Non, vous avez remarqué? Les informations, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Ils se sont dit, on va essayer de contrebalancer quand même et mettre une bonne nouvelle de temps en temps. Quand on achète le journal, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Mais là, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus dit, je ne suis pas venu dans le monde pour amener une mauvaise nouvelle. Et certains pensent que Dieu a une mauvaise nouvelle pour nous. Certains vont dire, mais l'enfer. Vous avez entendu parler de l'enfer? Vous allez dire, non, vous n'y croyez pas, vous. Si, moi j'y crois. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Vu sous un certain angle, ça doit être une mauvaise nouvelle. Vous ne croyez pas? Non? si vous recevez un ticket pour l'enfer, c'est pas une bonne nouvelle. Mais Jésus nous dit qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Jésus n'est pas venu dans le monde pour venir apporter une mauvaise nouvelle, même si il y a là une condamnation pour ceux qui sont loin de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas venu la proclamer, une condamnation. Jésus n'est pas venu annoncer une mauvaise nouvelle. Il est venu proclamer une bonne nouvelle. Il est venu dire, oui, certes, il y a l'enfer. Oui, certes, il y a la perdition éternelle. Mais Jésus est venu dire, il y a un secours, il y a un remède, il y a une solution. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Jésus proclame là, ce jour-là, à Nazareth, et on est là au début du ministère public de Jésus, et il proclame haut et fort, en lisant cette prophétie du prophète Ésaïe, qui avait été annoncée plus de 300 ans auparavant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Vous savez comment on dit une bonne nouvelle Allez, on va commencer par quelque chose de facile. En anglais, comment on dit une bonne nouvelle? Good news? Ouais, j'allais dire gospel, moi, je sais pas. Mon anglais est... Comment on dit une bonne nouvelle en grec? Ça va être plus facile pour moi. Évangile. Évangile. Euangelion. Une bonne nouvelle. Et quand Jésus dit, je suis venu proclamer une bonne nouvelle, il est venu annoncer l'évangile. Il est venu annoncer cet évangile, puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Et il l'explique. C'est quoi cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut avoir le cœur en 1000 morceaux. On peut être brisé, on peut être meurtri. Certains pourraient dire, mais vous ne savez pas ce que la vie m'a réservé. Il y en a qui ont été cassés, brisés dès leur plus tendre enfance. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce que les hommes ne sont pas capables de réparer. Jésus est venu guérir ce cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Combien sont là comme prisonniers, captifs, sont là comme enchaînés. Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance, donner aux aveugles le recouvrement de la vue, afin qu'ils ne soient plus dans les ténèbres, mais qu'ils marchent dans la lumière, pour envoyer libres les opprimés, afin qu'ils ne soient plus dans l'esclavage et sous l'oppression d'un tyran, mais qu'ils soient libres, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il y a de cela quelques années, on parlait ainsi, en vieux François, français on disait François il y a quelques années, et on disait en l'an de grâce 1198, non? Vous avez jamais entendu cette expression, temps du Moyen-Âge, en l'an de grâce, que ce soit au temps du roi Arthur ou de Philippe le Bon ou de je ne sais qui encore, l'an de grâce, ça vient d'ici. Jésus est venu publier une année de grâce du Seigneur. Et certains vont dire, oui, mais ça n'a pas duré une année, là. Ça fait déjà quelques années que ça dure. Il est venu publier la grâce, la faveur. Non pas la condamnation, mais la grâce. Vous comprenez qu'un prisonnier qui est là, condamné à mort, quand on vient lui parler de grâce présidentielle, ou du sénateur, ou de je ne sais qui, il va dire, mais là, c'est une bonne nouvelle. J'étais condamné, j'étais coupable, j'étais condamné à mort, mais voilà qu'on vient me parler de grâce. Il en est ainsi en ce qui nous concerne. À cause de notre mauvaise voie, de notre péché, nous étions condamnés à mort. Et Jésus est venu proclamer une bonne nouvelle, une grâce et une année de grâce. Il y a là comme à ce moment précis, comme si dans le ciel, il y avait un ange qui était responsable du chronomètre et qui avait appuyé sur Start et le chrono était parti. Pour une année. Elle dit, oui, mais si on est encore là, on est encore dans cette année de grâce. Oui, certainement. On est encore dans cette année de grâce. Et certains diront, mais quand est-ce qu'elle finit cette année de grâce? Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps, à votre avis? Il y en a encore pour quelques millions d'années? Vous croyez que notre planète va supporter encore quelques millions d'années? Est-ce qu'on n'est pas dans ce que la Bible appelle les temps de la fin? Est-ce qu'on ne serait pas proche de la fin de cette année de grâce? Si on part sur une année, on peut la découper en mois ou on va la découper en saisons, ça va être plus simple. On va la découper en quatre. D'accord? Découpons l'année en quatre. Si on découpe l'année en quatre, il y a quatre saisons dans une année, normalement. Il n'y a pas que l'hiver et l'été. Normalement, il y a aussi un peu d'automne et du printemps. Oui? Bon. Elle commence quand cette année? On va la faire commencer quand? En hiver? En automne, au printemps, en été, je vous propose de la faire démarrer en été. Là, supposons que cette année démarre en été. À partir de ce moment précis où Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, à partir de maintenant, ça démarre. Et on démarre en été. L'été, c'est une belle saison, non? Il fait chaud. Une bonne saison. C'est une saison aussi de récolte, saison de moisson. Et là, l'été commence. Et à partir de ce ministère de Jésus, à partir de ses années sur terre, à partir de sa crucifixion, de sa résurrection, à partir de ses apôtres qui vont partir aux quatre coins du monde, proclamer la bonne nouvelle, ça va être un temps d'été, un temps de moisson, de grande moisson. Et là, pendant quelques centaines d'années, oui, peut-être 200 ans, ça va être un temps là où l'Évangile va être proclamé avec force et autorité, à tel point que même certains hommes vont dire, en ce qui concerne Jérusalem, la moitié de la ville a suivi ce chemin, a embrassé cette cause. Eh bien voilà que dans cette grande moisson, l'année a commencé, cette année de grâce a commencé par un temps de moisson. Un temps de moisson extraordinaire, un temps de grande moisson. Et après l'été, vint l'automne. En automne, le temps se refroidit un peu, les feuilles tombent. Et là, il faut reconnaître que dans l'histoire de notre civilisation, eh bien il s'est passé, il y a eu de belles avancées de l'Évangile, de l'Église là qui a grandi, mais après, vers la fin au moment du déclin de l'Empire romain, il y a eu la chrétienté, le christianisme qui est devenu une religion officielle avec la conversion de l'empereur Constantin. Il a proclamé que maintenant tout le monde devait être chrétien. Alors bien des Romains dans tout le royaume, et vous comprenez que c'est là où tout le bassin méditerranéen sont devenus chrétiens, non pas parce qu'ils ont cru en l'Évangile, non pas parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, mais parce que l'empereur l'avait dit. Et il y en a d'autres qui étaient des prêtres de toutes sortes de religions, qui disent, on va juste changer de soutane, on va juste changer d'affaire, et on va passer de notre Dieu, de notre affaire, à celui-là, de l'empereur Constantin. Et petit à petit, ça s'est refroidi. Et là, on sent la froideur de l'automne. Et là, la moisson commençait à ralentir. Et les temps se sont refroidis. Pour arriver ensuite à un hiver. Et un hiver rugueux. Un hiver québécois. Un hiver froid. Et quand on y réfléchit bien, toute cette période du Moyen-Âge, ça a duré quand même quelques centaines d'années. C'était pas j'allais dire quasiment un peu moins de 1000 ans, là, 1000 ans d'hiver, un peu moins de 1000 ans, où là, pendant ce temps de Moyen-Âge, c'était froid. Là, la vraie foi, où était-elle? Il y en avait peu. Des gens là qui croyaient encore dans la valeur de l'Évangile, dans la simplicité du message évangélique, dans la puissance de Dieu. Non, c'était le système de la religion, c'était les papes qui faisaient toutes sortes d'affaires. Vous avez entendu toutes sortes d'affaires qui a pu se passer au Moyen-Âge. On devenait pape de père en fils. Ça s'est produit. Il y a eu toutes sortes d'affaires. il y a eu des conflits, il y a eu des histoires d'argent, il y a eu des histoires politiques, toutes sortes d'affaires. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu les croisades. Vous connaissez toutes ces histoires. Mais après l'hiver, il y a le printemps. Et le printemps, c'est un petit bourgeon qui apparaît par-ci, une petite feuille qui apparaît par-là, et c'est ce qui s'est produit. Il y a eu Luther, il y a eu ces camisards, il y a eu ce réveil dans les Cévennes, il y a eu un petit peu sur toute la surface de la Terre, à plusieurs endroits, quelques bourgeons, puis ça a commencé à pousser. Et puis il y a eu de grands réveils spirituels. Il y a eu John Wesley, il y a eu les méthodistes, il y a eu toutes sortes de grands réveils religieux, c'était le printemps. Et là, le printemps, le temps se réchauffe, et sur toute la surface de la terre, on a vu plus de regain pour l'évangile, plus de foi, plus d'ardeur, plus de zèle. Et après le printemps, c'est l'été. Et on est en quelle période à votre avis? On est toujours dans le printemps ou on est déjà arrivé dans l'été? Laissez-moi vous dire qu'on est déjà dans l'été. D'après les statistiques concernant les conversions, il y a eu plus de conversions dans ces 40 dernières années. Attendez, c'est 40 ou 50? Je crois que c'est 50, pardon. Dans ces 50 dernières années. D'accord? Imaginez, 50 dernières années. Il y a eu plus de conversions en nombre de personnes, plus de gens qui ont donné leur vie à Jésus dans ces 50 dernières années que dans toutes les années de l'an zéro jusqu'à il y a 50 ans. Est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe là? Dans ces 50 dernières années, c'est exponentiel là. On est dans l'été. La moisson est là. Il y a des pays où il se passe des choses extraordinaires sur toute la surface de la Terre, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, je pense à la Corée, que ce soit dans bien d'autres pays, il y a là des grandes moissons. Et vous allez dire, mais au Québec, il y a une grande moisson. Vous savez, au Québec, il faut que l'hiver, là, refroidisse, ça met un peu plus de temps, hein. Il faut que ça va. Mais l'été est là. L'été arrive. Et on arrive. On est là. Dans ce temps de la fin. Et qui veut dire aussi que cette année va bientôt s'achever. Alors que certains vont me dire, mais dites-nous quand, quel jour, à quelle heure. Oh, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas capable. Mais les événements autour de nous nous montrent que les temps approchent. Mais en tout cas, Jésus pouvait dire, levez les yeux vers les champs. Regardez, les champs sont déjà blancs et il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Et si on regarde les yeux, si on lève les yeux, pardon, et si on regarde autour de nous, et si on considère les temps dans lesquels nous vivons, on n'est plus en automne, on n'est plus en hiver, on est en été. Et les champs sont blancs. Et si on regarde autour de nous, les champs sont blancs, prêts pour la moisson. Et cette année de grâce qui a été publiée, elle est encore aujourd'hui ouverte. La grâce est encore aujourd'hui accessible. Et cette proclamation que Jésus a pu faire à Nazareth est encore aujourd'hui toute sa force, toute sa valeur et toute son autorité. Oui, il y a une bonne nouvelle qui doit être proclamée aux pauvres. Il y a encore la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Il y a encore la liberté pour les captifs, la délivrance pour les captifs. Il y a encore le recouvrement de la vue pour les aveugles. Il y a encore la liberté pour les opprimés. Parce que cette année de grâce, on y est encore. Et on ne veut pas là, avec découragement, dire oui, mais bon, on arrive à la fin. Au contraire, ça devrait nous encourager, nous exciter, nous dire, non, on est là, dans les meilleurs moments, le temps se réchauffe, le soleil frappe plus fort, la gloire de Dieu se manifeste de plus en plus. Jamais il y a eu autant de conversions sur toute la surface de la terre. Les derniers chiffres que j'ai eus, et pourtant c'est vieux ces chiffres-là, en Chine, 10 000 conversions par jour. Vous me suivez? Vous avez dit que c'est normal, ils sont nombreux. Peut-être. 10 000 par jour. On fait une église, ça, hein? Au Pérou, 3 églises qui ouvrent par jour. Hein? Gloire à Dieu. On est en été.
Et vous allez lire ici, ben ici aussi, les champs sont blancs. Et laissez-moi vous dire que Dieu, c'est... à un moment, Jésus va dire, le champ, c'est le monde. Il ne va pas dire, c'est pas seulement tel pays, tel autre ou tel autre, c'est le monde. Et il n'y a pas de préférence pour Dieu. Il n'est pas plus pour les Sud-Américains que pour les Coréens, que pour les Burkinabés, que pour les Ivoiriens. Non, Dieu est le Dieu de tous les hommes et des Québécois aussi. Et Dieu aime les Québécois. Non ? Il envoie même des Français au Québec. Alléluia. Si on revient à notre histoire, ça se situe à Nazareth. Jésus proclame, Jésus annonce, et Jésus leur dit à tous, regardez ce qui est en train de se passer. L'année là de grâce vient d'être entamée, et il y a de bonnes choses qui sont réservées pour nous. Mais ils se sont regardés les uns les autres, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Notez bien qu'ils sont surpris en disant, mais ce qu'il dit, ça a l'air tellement vrai, c'est tellement bon. C'est bien marqué, des paroles de grâce. Ils ne sont pas surpris des paroles que Jésus a pu dire simplement, non. Là, Luc rend témoignage qu'ils savent, ils prennent conscience, ceux qui sont là autour, qui sont là dans cette synagogue ce jour-là, conscience que, mais là, ce que dit Jésus, c'est plein de grâce, c'est plein d'autorité, c'est plein de puissance. Ils en sont conscients. Mais ils se disent les uns les autres, mais Jésus, c'est pas celui qu'on connaît là pour être le fils du charpentier. Et certains disaient, mais c'est pas le petit Jésus là qui habitait dans telle maison? Est-ce que c'est pas ce Jésus là avec Marie et Joseph? Est-ce que c'est pas lui là? Mais on le connaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Jésus proclame sa royauté, proclame sa divinité. Il dit, je suis le Christ, je suis le Messie. Ça veut dire ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ce qu'on comprend là, il m'a oint, du verbe oindre. Oindre. Ça fait référence à ce qui se passait dans l'Ancien Testament quand, par exemple, Samuel le prophète est allé oindre Saül et allé oindre David avec une corne remplie d'huile qui verse l'huile sur la tête et cette huile descend et il est oint. On comprend ce que ça veut dire. Donc, oint, plein d'huile. On va dire comme ça. Il m'a oint. Celui qui est oint, en hébreu, vous savez, je suis sûr que vous le savez. Ça se dit comment? Celui qui est oint, Meshaya, le Messie. Et en grec, parce que je sais que vous êtes aussi bon en hébreu qu'en grec, celui qui est oint, Christos, Christ. Quand on dit Jésus, Christ, ça veut dire Jésus, celui qui est le Christ. Mais là, on utilise un mot grec. Mais si on voulait mettre un mot hébreu à la place, on pourrait dire Jésus, celui qui est le Messie. Et si on voulait traduire, on dirait Jésus, celui qui est oint, celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui, celui qui a cette onction royale, celui qui vient de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu, le Messie, le Christ. Et là, Jésus le proclame. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère dans cette synagogue de Nazareth, parce que Jésus est en train de dire, je suis le Messie, celui qui est oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, je suis le Christ, je suis le Messie. Et ceux qui sont là vont dire, non, c'est pas possible, on le connaît trop. Et peut-être que certains, cet après-midi, ce soir, ont cette même réaction. J'ai vu des gens avoir cette réaction-là, même que les habitants de Nazareth. Pourquoi? Parce que des fois, on vient parler de Jésus. Et on va dire, vous savez, Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est le Roi. Jésus, c'est celui qui délivre. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est celui qui renvoie libre. Jésus, c'est celui qui fait des œuvres extraordinaires. Et d'autres vont dire, non, non, Jésus, je connais. Je connais Jésus, moi. Jésus, c'est pas celui qui est dans la crèche, là.
Jésus, c'est pas celui qui est dans telle institution religieuse. Jésus, j'en ai entendu parler quand j'étais tout petit. Jésus, Jésus. C'est sûr, Jésus, c'est pas la première fois que vous entendez ce nom-là. Si? Vous avez déjà entendu parler de Jésus. On est dans un pays chrétien, non? Et certains en ont tellement entendu parler, et d'une certaine manière, que quand on vient leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Sauveur, Messie, Roi, celui qui est vivant, celui qui agit aujourd'hui encore, sont là comme ces habitants de Jérusalem, et c'est peut-être le cas de quelqu'un cet après-midi, qui dit, mais moi j'ai du mal à vous croire, parce que j'ai toujours connu Jésus différemment. J'ai toujours entendu parler de Jésus d'une autre manière. J'ai toujours cru que Jésus, c'était une affaire de religion, c'était une affaire là pour les gens qui ne savaient pas quoi faire, qui avaient besoin de réconfort, qui avaient besoin de religion. Et certains disent, pour moi, Jésus, c'était ça. Mais là, il y a comme un clash, une différence entre ce que les hommes là croyaient et la réalité. Et qu'on puisse ce soir ne pas se laisser rattraper, ne pas se laisser influencer par ce qu'on a peut-être toujours su, toujours connu, toujours entendu. Certains vont dire, mais vous savez, moi, c'est pas à mon âge que je vais changer de religion. Vous avez déjà entendu cette expression? Ah, je l'ai entendu. Personne qui vont dire, vous savez, moi, hein, c'est pas à mon âge que je vais changer de religion. Il ne s'agit pas de changer de religion. Il s'agit, comme là, de pouvoir faire une pause et de dire, voyons voir. Est-ce que vraiment je connais ce Jésus? Et là, les habitants de Nazareth pouvaient se poser la question, se dire, mais voyons voir, est-ce que vraiment on le connaît, ce Jésus? C'est vrai qu'on l'a vu grandir. Est-ce qu'il était comme les autres? C'est vrai que on était voisins, c'est vrai qu'on l'a vu dans le village. Mais est-ce qu'on le connaît tant que ça? Est-ce qu'il n'y avait pas une affaire là, quand il était plus petit, qui est né à Bethléem? Est-ce qu'il n'y avait pas une sphère d'étoiles? Il me semble avoir entendu une affaire comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas eu des mages qui sont venus d'Orient amener quelques présents? Est-ce que quand il avait 12 ans, il paraît que là, quand tout le village est allé à Jérusalem, eh bien, Jésus à 12 ans parlait, enseignait même les principaux sacrificateurs, les scribes, les maîtres de la loi? Est-ce qu'ils ne s'en souviennent pas de toutes ces affaires-là? Est-ce que Jésus était un enfant comme les autres? Un adolescent comme les autres, avec tous les problèmes d'adolescent comme tout le monde? Ou est-ce que Jésus était différent? Est-ce qu'il était exemplaire? Est-ce qu'il était remarquable? Est-ce qu'ils ne s'en souviennent pas? Ils ont du mal à faire la part des choses. Jésus là veut leur ouvrir les yeux et proclamer, je suis le Christ, croyez en moi. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le corps brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Et leur réaction a été d'être remplie de colère. C'est surprenant de voir qu'ils furent tous. Quoique c'est plus facile d'être tous, vous savez, de suivre les autres. Plus facile d'être tous remplis de colère qu'il n'y en ait que moitié remplis de colère. Vous avez remarqué ça? Tellement plus facile de suivre la masse, de suivre ce que pense tout le monde. Et voilà qu'ils sont tous remplis de colère, pour faire comme tout le monde. Un petit peu comme quand plus tard, ils vont tous lever le poing et vont dire à Pilate, crucifie, crucifie-le. Nous n'en voulons pas comme roi. Nous n'avons de roi que César. Et là, ils sont tous contre lui. Contre lui. Ils l'emmènent au sommet de la ville pour le jeter, le précipiter, le mettre à mort. Mais il nous est dit tout simplement, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ils sont là tous ensemble. Et ce soir, est-ce que tu veux faire comme tous? Est-ce que tu veux être dans le tous? Est-ce que tu veux faire comme tout le monde, en disant, ben oui, mais moi, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, et on est tous d'accord? Ou est-ce que tu veux ouvrir les yeux et réaliser que ce n'est pas ce que pensent les autres qui compte, ce n'est pas ce que disent les autres, mais c'est ce que dit Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les autres pensent ou ce que Dieu pense? Est-ce que le plus important, on a entendu un pasteur une fois dire ça, est-ce le « quand dira-t-on »
On dit le quand dira-t-on aussi? Ou le quand dira-t-il? Avec un I majuscule. Est-ce que le plus important, c'est d'être tous là, être des... Oui, mais c'est la société, on pense tous pareil, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, je suis sûr que dans cette synagogue à Nazareth, beaucoup ont dit, ben, on va faire comme tout le monde, parce que quoi? Ils sont pas obligés de faire comme les autres. Vous avez un libre choix, un libre arbitre, et pouvoir dire, moi, je décide. Même s'il faut remonter le courant, même s'il faut être contre les autres, même s'il faut être à l'opposé de tout le monde, même s'il faut être dans la minorité, même si je ne suis pas dans la majorité, c'est vrai qu'au Québec, vous savez, des gens qui croient en Dieu, maintenant, si j'ai bien compris, avec la Révolution tranquille, on a mis Dieu de côté. Hein. Les affaires de religion, tout ça, ça reste plus, c'est juste pour les personnes âgées. Parce qu'il y a des jeunes ici. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les jeunes là? Ils s'occupent de religion là? C'est pas une affaire de religion. C'est pas une affaire de religion. C'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce qu'aujourd'hui les jeunes disent moi Dieu j'en veux pas. C'est pas parce que tout le monde. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire intime. C'est une affaire de dire moi dans mon cœur, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. J'ai besoin d'un libérateur. J'ai besoin de quelqu'un qui guérit mon cœur brisé. J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin de Jésus comme sauveur. Et c'est de dire tout simplement, oui Jésus, je veux que tu sois mon roi, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon maître. Ne vous laissez pas influencer par la foule, parce que toute la foule crie le même mot, parce que tout le monde va dans le même sens, parce que oui, il est large le chemin qui mène en bas. Il est étroit et resserré. Le chemin qui mène en haut. Choisis le bon chemin. C'est plus facile de descendre que de monter. Non, vous avez essayé? Faites un peu de bicyclette, du bicycle. Plus facile de descendre que de monter. Mais moi, je préfère monter que descendre. Parce qu'en montant, je sais où je vais. Et je préfère être auprès de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a ouvert une voie. C'est qu'il nous a tracé un chemin. Et c'est qu'il nous donne la force. Quelqu'un dira, mais je ne suis pas capable. Lui te donne la force d'abandonner, la force de rejeter, la force de faire demi-tour, la force de laisser toutes les mauvaises choses et de dire je décide de marcher dans ses voies, je décide de marcher avec lui, je décide d'aller dans sa direction et de le rejoindre jusqu'au ciel. Là, ils veulent chasser Jésus, ils sont remplis de colère, ils veulent le chasser, ils le montent en haut de la montagne, ils veulent le pousser. Mais Jésus simplement passe au milieu d'eux. Et ils font rien. Ils avaient l'air tous ensemble d'accord pour chasser Jésus. Ils avaient l'air tous ensemble. Est-ce que ce n'était pas marqué? Est-ce qu'on n'a pas dit remplis de colère? Et voilà qu'ils sont remplis de colère, qu'ils chassent Jésus, qu'ils le montent au sommet de la montagne, et puis que ben Jésus s'en va. Et ils sont là, ils ne disent rien. Et pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi ils laissent faire? Pourquoi ils laissent Jésus partir passant au milieu d'eux? Ils sont tous contre un. Pas un pour tous et tous pour un. Mais ils sont tous contre un. Et pourtant, Jésus passe au milieu d'eux et personne ne bouge. Parce qu'il y a sur Jésus cette onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il y a sur Jésus cette autorité. Et quand Jésus passe au milieu d'eux, personne même ne peut bouger. Ils sont tous remplis de colère. Et le chapitre 4 commençait par Jésus rempli du Saint-Esprit. D'un côté, il y a celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont remplis de colère. Que la colère ne soit pas votre lot. Soyez pas remplis de colère. Soyez pas plein de colère ou d'amertume, ou encore pire, que la colère de Dieu soit sur vous. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que comme Jésus, vous puissiez dire, Seigneur, viens me remplir. Viens faire de ma vie ta demeure. Que ton esprit soit sur moi aussi. Et que je devienne comme Christ. Oint. Un petit peu comme un petit Christ. D'ailleurs, pour se moquer de ces gens qui suivaient ce chemin, qui suivaient la voie de Christ, on les appelait pas ceux qui sont loin, mais on a voulu faire un jeu de mots, on les appelait les onctueux. Ceux qui sont onctueux. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Onctueux, loin, onctueux. Oh, ils sont tellement onctueux ceux-là. Vous savez ce que ça a donné en grec? Christianos, qui a donné chrétien. Ces chrétiens, ceux qui sont onctueux, ceux qui sont loin. Est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ? Est-ce qu'on retrouve dans le mot chrétien le mot Christ? Oui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. C'est-à-dire que sur lui aussi repose l'Esprit de Dieu. Sur lui aussi repose cette onction, cette puissance qui délivre, qui affranchit et qui peut venir qualifié, mandaté, et pour dire avec Jésus, l'Esprit de Dieu est sur moi aussi. Il m'a oint, il m'a donné une mission pour proclamer. Est-ce que Jésus nous a demandé de proclamer? Allez par tout le monde, proclamez la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile à tout le monde, à toute la créature. On peut mélanger plusieurs évangiles si on veut, hein. Et dire « Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour une mission, pour proclamer l'Évangile, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour dans le nom de Jésus proclamer aux captifs une délivrance, pour dans le nom de Jésus proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles, pour dans le nom de Jésus proclamer la liberté pour ceux qui sont opprimés. » Est-ce qu'il y en a qui sont onctueux ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur vous? Mais alors tout est possible. Tout ce que Jésus proclame, ça marche ce soir encore. Parce que ce soir encore, on peut dire, mais celui qui a le cœur brisé dans ce lieu, est-ce qu'il peut avoir un cœur guéri? Est-ce qu'on peut dire ce soir, mais celui qui est là captif, c'est plus fort que lui, captif de mauvaises pensées, captif d'angoisse, captif de peur, captif de vice, captif de la boisson, captif de toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'il peut être délivré ce soir? Est-ce qu'on peut dire ce soir que celui qui est aveugle, celui qui marche dans les ténèbres, celui qui connaît rien de son chemin, est-ce qu'il peut ouvrir les yeux et voir, comme on l'a chanté, « Ouvre les yeux, Seigneur, de mon cœur, pour envoyer libre les opprimés, celui qui est opprimé, celui qui est malheureux. » Est-ce qu'il peut être libre ce soir? L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu. Parce qu'il est dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus. Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. L'Esprit de Christ, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu est sur chacun d'entre nous qui avons reçu, qui avons cru dans le nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais inviter ceux qui n'ont jamais fait cette expérience, ceux qui ne connaissent pas Jésus, peut-être comme ces habitants de Nazareth, qui pensent connaître Jésus, qui disent « Moi, j'ai déjà entendu parler de Jésus, j'ai déjà vu Jésus. Jésus, c'est familier, il était dans mon entourage, on a toujours parlé de Jésus. Dans notre famille, on a toujours cru. » Mais est-ce que vous connaissez Jésus comme celui qui est présenté là, dans l'Évangile? Est-ce que vous connaissez Jésus comme celui qui change les vies? Comme celui qui transforme, comme celui qui libère, comme celui qui agit avec puissance. Est-ce que vous connaissez Jésus ainsi? Est-ce que vous ne vouliez pas le rencontrer, le découvrir, le connaître? Est-ce que vous voulez être rempli de colère, le rejeter, le repousser? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt préférable pour vous de dire ce soir, Jésus, je veux t'accueillir, je veux te recevoir, je veux que tu viennes changer ma vie, je veux que tu viennes transformer ma vie. Que tu viennes changer mon cœur. Pour ceux qui le connaissent déjà, est-ce qu'on puisse réaliser ce soir que, sur nous aussi, l'Esprit du Seigneur veut être répandu. Sur nous aussi, l'onction, l'huile fraîche, veut être répandue comme cette huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Et pouvoir dire, Seigneur, là, tu m'as oint. Tu m'as rempli de ton esprit. Tu m'as rempli de ta puissance pour une mission particulière. Et je veux remplir cette mission. Je veux moi aussi proclamer cette année de grâce. Parce qu'il viendra un temps où cette année sera finie. Et pendant qu'il est jour, pendant que cette année n'est pas encore à son terme, eh bien nous voulons œuvrer, nous voulons travailler, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans ce lieu, dans cette église, dans cette ville. On prie ensemble. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Oh, parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce qu'un jour, tu as changé notre vie, tu as touché notre cœur. Tu nous as confondus par ton esprit, tu nous as bouleversés. Tu nous as transformés. Alors que nous étions opprimés, tu nous as rendus libres. Alors que nous étions captifs, captifs du péché, captifs de toutes sortes d'affaires, tu nous as délivrés. Seigneur, tu vois ceux qui ce soir pensent peut-être te connaître et te connaissent si mal. Seigneur, je prie afin que ce ne soit pas de la colère dans leur cœur, que ce ne soit pas du rejet, mais qu'ils puissent te recevoir comme sauveur, comme libérateur. Alléluia. Seigneur, que ton esprit maintenant puisse venir toucher les cœurs et les convaincre.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.